Oui, bonjour. Eh bien, j'espère que vous êtes en forme ce matin. Je veux saluer les nouveaux qui sont ici, peut-être pour la première fois, qui nous visitent. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer quelques-uns déjà ce matin. Dire bonjour à ceux qui nous écoutent en direct par l'Internet. C'est assez incroyable aujourd'hui, la technologie, ce qui nous permet de faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Je veux remercier toute l'équipe qui travaille avec les caméras. Si vous voyez les caméras, c'est parce que nous sommes diffusés en direct. Il y a des gens qui nous écoutent. D'ailleurs, je reçois à chaque semaine des petits mots, comme je pense à Mira, qui est, je sais pas si elle est ici ce matin, mais sa santé ne lui permet pas de venir chaque dimanche. Donc, elle nous écoute, elle m'écrit un petit mot par courriel après chaque dimanche. Il y en a d'autres aussi, Rémi, tout ça. On veut saluer aussi les gens de l'église de Orléans qui nous écoutent. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, on est très heureux de vous avoir avec nous ce matin. Eh bien, je vais faire de mon oncle ce matin. J'ai des photos de famille. J'aimerais ça vous montrer ça. Cette semaine, ça faisait un an. Vous savez, si vous avez été avec nous l'an passé, ma fille est allée en Ukraine avec son mari, Julie et Joël, pour aller adopter deux jeunes garçons de l'Ukraine. Ils étaient dans un orphelinat. Et puis, il y avait environ 200 enfants, si ma mémoire est bonne. Et ils sont dans des dortoirs de 20 enfants chacun. Et puis, ça fait un an, ça a été tout un épisode, une saga, et plusieurs, ici, vous avez prié pour ça, vous l'avez suivi sur Facebook. Ça a été fait, maintenant, ça fait un an, cette semaine. Alors, ils ont fait une fête pour célébrer l'adoption, un an d'adoption. Et puis, j'aimerais vous montrer les deux petits garçons, là, Noah, et puis Liam, le plus jeune. Et cette semaine, ma fille a préparé un gâteau. C'est le drapeau finalement de l'Ukraine, qui est bleu en haut, c'est le ciel, et jaune en bas. Ça représente les blés, les beaux champs et tout ça de blé. Donc, ils ont fêté ça ensemble. Et je sais, il y a un S, je sais. Jean-François vient me voir, il dit, en tout cas, tu parles à ta fille. Oui, c'est ça, je sais. Ça va être une de mes questions, ça va être une de ses enfants, C'est sûrement un de ses enfants qui a fait ça, là. Et puis, elle a préparé les deux mets favoris, elle, de l'Ukraine. Ah, c'est-tu bon, ça? Des pâtes, là, qu'on appelle ça. Comment vous diriez ça, vous autres, là? Viriniki? Oui, peut-être, là. Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est proche, en tout cas. Des pâtes. Et puis, du borsch. Hey, du borsch. Ah, oh, c'est tellement bon. Natacha est venue à la maison chez nous, puis elle venait de faire du borsch. C'était tout chaud. Elle l'a emmené dans sa casserole. Elle l'a emmené chez nous. On a mangé ça. Elle a dit, mangez-en tout de suite. C'est chaud, là. Ah, c'est tellement bon. Elle nous a donné la recette. On a envoyé la recette par courriel à ma fille. Puis, du borsch. Ah, c'est vraiment bon. On aime bien ça. Alors, ma fille a fait une fête. C'est un party pour célébrer l'adoption. Ça fait un an maintenant que vous faites partie de notre famille. Vous êtes nos enfants. Des enfants bien-aimés. Et ils se sentent aimés. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a toute une dynamique avec ces deux jeunes-là, parce que les deux jeunes, lorsqu'ils ont quitté l'Ukraine, évidemment, ils avaient un paquet de peur, ils avaient beaucoup de peur. Là. C'est qui ces gens-là qui viennent nous chercher? Ils voulaient rester là-bas par peur. Ils ne réalisaient pas qu'ils avaient toute une vie fantastique qui les attendait. Les autres, ils restaient sur leur peur, se demandaient. Et au début, tu sais, ils voulaient recevoir bien des cadeaux et tout ça. Donc, c'est un petit peu des enfants, hein? On manipulait un petit peu, puis de temps en temps, ça blessait beaucoup ma fille. Elle disait, « Oh, on voudrait retourner en Ukraine. » À chaque fois que ma fille mettait des règles et tout ça, parce que quand ils sont arrivés là, dans la maison, là, écoute, t'as des sœurs, il faut te faire attention, tu peux pas les battre, tu peux pas les frapper. C'est sûr qu'on n'a pas la surveillance dans un orphelinat qui a 200 enfants, comme tu vas avoir dans un foyer. Donc, il faut que tu respectes tes sœurs, c'est tes nouvelles sœurs, il faut que tu fais attention. Alors là, ça les fatiguait, puis ils pouvaient pas avoir ce qu'ils voulaient. Donc, à chaque fois, de temps en temps, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils... Tiens, moi, j'aimerais ça retourner puis en arrière, puis retourner en Ukraine. Et ça, c'est blessant, surtout ma fille, elle travaillait tellement fort pour ça, mais en même temps, tu sais, elle savait à quelque part, c'est de la manipulation. Mais c'est vraiment intéressant parce que ma fille m'a raconté l'autre jour que Liam, le petit que je vous ai montré tantôt, Liam, tu sais, eux autres, là, ils connaissent de plus en plus le français. Donc, ils peuvent exprimer puis raconter des choses qu'ils ont vécues là-bas et leur passé. Parce que maintenant, il peut s'exprimer dans la langue que ma fille comprend. Avant, il parlait juste le russe ou l'ukrainien. Tu sais, c'est difficile. Joël a pris le dictionnaire puis essayait tant bien que mal. Mais là, tu sais, ils sont plus à l'aise dans la maison, connaissent la langue de plus en plus. Et l'autre jour, le petit Liam a raconté à Julie, à ma fille, elle dit, « Maman, il l'appelle maman, hein? » Il dit, « Maman, Moi, souvent, quand j'étais en Ukraine, sur mon lit, je pleurais le soir, puis je priais, puis je demandais à Dieu de me donner une mère. Et c'est frappant, là, parce qu'aujourd'hui, ils se retrouvent avec des parents qui les aiment. Juste avant les fêtes, Noah, le plus grand, a dit à ma fille, je pense que vous l'aurez peut-être raconté, il a dit, juste avant Noël, il a dit à son père, je crois, à Joël, il a dit, « Moi, j'ai reçu le plus beau cadeau de Noël. J'ai reçu des parents. » Imaginez, hein, ce qu'ils vivaient, eux autres. Puis c'est vraiment intéressant parce qu'à mesure qu'ils réalisent qu'est-ce qu'ils ont maintenant, toute cette nouvelle famille qui les aime, à mesure qu'ils réalisent qu'ils ont des parents qui les aiment, à mesure qu'ils réalisent qu'ils sont vraiment des enfants maintenant, de moins en moins, c'est ma fille qui m'a raconté ça, de moins en moins ils vont dire qu'ils vont vouloir retourner dans le passé. Parce qu'ils apprécient de plus en plus ce qu'ils sont maintenant et ce qu'ils ont maintenant. Voyez-vous? C'est là que l'apôtre Paul veut nous emmener chacun d'entre nous dans le passage que nous allons voir ce matin. C'est exactement là qu'il veut nous faire, c'est ce qu'il veut nous faire comprendre et réaliser, parce que ça fait un gros changement, un gros impact dans notre propre vie. Donc moi, j'aimerais vous encourager à tourner dans Éphésiens, si vous avez votre Bible avec vous. Et j'aimerais lire Éphésiens chapitre 5. Et, on va lire jusqu'au verset 14, si vous voulez bien. Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 14. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. On va voir ce que ça veut dire tantôt. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soit pas même mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous savez, en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire l'idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de la lumière ou de l'esprit consiste, en effet, dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur. Il ne participe pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler, mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Eh bien, on veut arrêter sur ce passage-là, et qu'est-ce que Paul dit essentiellement? C'est quoi le message ici? C'est bien simple. Il dit, « Imite ton père. » Dans le fond, c'est ça qu'il est en train de dire. « Imite ton père. » Ça, c'est le message que l'apôtre Paul veut nous donner. Et il va nous dire, en le fond, « Imite ton père parce que tu es un enfant bien-aimé. » Et c'est ça qu'il va nous dire ici. Il est en train de dire essentiellement la même chose que nous avons déjà vu au chapitre 4, par exemple. Il l'a dit autrement au chapitre 4. On voit un verset dans Éphésiens 4:13 où il est dit, « Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Donc, dans chapitre 4, ce que Paul est en train de nous dire, c'est que devenez de plus en plus comme Jésus-Christ. Cherchez à vous améliorer compte tenu de ce que vous êtes maintenant. Vous êtes une nouvelle personne en Jésus-Christ. Alors, à la lumière de ce que vous êtes maintenant, améliorez, cherchez à vous améliorer de plus en plus et ressemblez de plus en plus à Jésus. Ici, ça dit, imite ton Père. Donc, tantôt, c'est imite Jésus-Christ, puis là, c'est imite ton Père, puis ça revient à la même chose. En d'autres mots, le chrétien est appelé, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces fameux bracelets, là, WWJD, What would Jesus do? Le chrétien, dans le fond, doit constamment se poser la question, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Qu'est-ce que Jésus, si j'étais Jésus, là, je ferais quoi devant cette situation-là et la décision que je dois prendre en ce moment? Alors, tout chrétien, comme chrétien, nous sommes appelés à ressembler davantage à Jésus-Christ. Et pourquoi? Pourquoi imiter Dieu? Pourquoi chercher à devenir meilleur? Eh bien, Paul le dit bien clairement, soyez donc, verset 1, les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Alors, si tu es un chrétien, voilà ce que tu es maintenant. On l'a déjà vu jusqu'au début, depuis le début de la lettre aux Éphésiens, Paul est en train de décrire qui nous sommes maintenant que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes vraiment une nouvelle personne, complètement changée. On n'est pas parfait, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on veut s'améliorer. Mais maintenant, déjà, parce que nous sommes venus à Jésus, 2 Corinthiens 5, 17 dit, toute créature, si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes une nouvelle créature, toute chose devenue nouvelle, les anciennes sont passées, c'est fini. Alors, ce que la lettre aux Éphésiens est en train de nous enseigner depuis le début, depuis le verset 1 du chapitre 1, c'est que nous sommes une nouvelle personne. Nous avons une nouvelle identité maintenant, on n'est plus les mêmes. Et ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est que depuis que nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes saints, déclarés saints, bénis, appréciés, sauvés, réconciliés, encouragés, entendus, doués, nouveaux, pardonnés. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans le chapitre 5, c'est que nous sommes adoptés. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Dieu nous aime. Et verset 1, vous êtes ses enfants bien-aimés, ça c'est bien clair. Il va le répéter d'ailleurs, ce principe d'être un enfant de Dieu. Il va le répéter au verset 8, il va encore parler que nous sommes des enfants de lumière. Alors nous avons été adoptés en Jésus-Christ. Un passage, un des premiers passages qu'on apprend habituellement lorsqu'on vient au Seigneur, c'est Jean 1, 12 qui dit ceci. Il dit, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par la volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qu'ils sont nés de Dieu. » Et ça, c'est un miracle. C'est par sa grâce. On ne mérite pas. Alors, ça, c'est la clé. C'est la clé pour nous inspirer, nous motiver, nous inciter à nous améliorer, faire cet effort-là, et de pouvoir dire non quand c'est le temps de dire non, et dire oui quand c'est le temps de dire oui. Paul est en train de nous dire, n'oublie jamais que tu es le bien-aimé de Dieu. Si tu te rappelles que tu es un enfant bien-aimé, tu pourras imiter ton Père. Tu vas vouloir ressembler de plus en plus à ton Père céleste. Tu seras capable d'imiter Dieu dans la mesure que tu vas reconnaître que tu as été adopté dans sa famille. Et c'est ce qu'il y a de plus beau à la foi chrétienne, et qui nous distingue des religions, qui nous donne des listes de choses à faire et à ne pas faire. Ce n'est pas ce qu'on voit dans les Écritures. Oui, il y a des choses à faire et à ne pas faire, mais il faut le voir à la lumière de ce que nous sommes maintenant et ce que le Seigneur a déjà fait pour nous. Alors, nous avons besoin de nous voir comme un enfant de Dieu bien-aimé. Parce que être un enfant adopté représente même plus que de se voir pardonner. Parce que le pardon, c'est essentiel. Est-ce que nous sommes pardonnés? Est-ce que c'est ça, un chrétien, être pardonné? Certainement, nous sommes pardonnés nos péchés. À cause de Jésus-Christ qui est allé sur la croix, oui, il nous a pardonné nos fautes, et ça, c'est glorieux, c'est un message glorieux, et c'est par la grâce de Dieu. Oui, est-ce que nous sommes nés de nouveau? Absolument. Et ça aussi, c'est glorieux. Mais si nous sommes nés de nouveau, et si nous sommes pardonnés, c'est pourquoi? C'est pour devenir un enfant de Dieu. Parce que Dieu voulait nous inclure, nous emmener dans sa famille, dans une nouvelle famille. Après tout, il n'y a pas d'espoir sans le pardon, sans la nouvelle naissance qui nous donne une vie éternelle pour l'éternité. Mais le fait d'avoir été adopté, ça c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui et c'est pour l'éternité, c'est pour demain. Alors c'est dans ce sens-là, l'adoption signifie plus encore. Oui, notre passé est effacé. Mais nous avons maintenant, aujourd'hui, nous avons des privilèges extraordinaires parce que nous sommes des enfants de Dieu. Alors, quels sont ces privilèges? Je vais vous en nommer quatre. Mais je ne vais pas juste énumérer les quatre privilèges maintenant que nous sommes des enfants de Dieu. Je vais vous poser une question, et c'est une question très sérieuse, parce que ça va faire la différence si tu as la victoire ou pas dans ta vie chrétienne. Si tu vas grandir, changer, devenir de mieux en mieux, c'est pas mal là que ça se joue. Alors, les quatre privilèges qu'on va énumérer, regarde-les comme un test. Et je vais te poser cette question, puis on va passer à travers chacun des privilèges d'être un enfant de Dieu, et posez-vous la question à chaque fois. Est-ce que tu vis comme un orphelin ou tu vis comme un de ses enfants? D'accord? Est-ce que tu vis comme un orphelin ou tu vis comme un de ses enfants? Alors, quels sont ces privilèges? Premier privilège, et premier test aussi, premier test, c'est l'acceptation. Maintenant, un employé peut se faire congédier. On s'entend. Maintenant, le patron peut bien t'aimer, tu peux faire quelques gaffes, il peut agir avec grâce, mais à un moment donné, il peut te congédier. mais pas un enfant. Un enfant peut faire bien des bêtises, mon ami, mais moi, vraiment, qu'il y a des parents qui aiment leurs enfants, ils vont toffer. Je ne sais pas combien de fois je suis allé à l'école, gêné, parce que mes enfants ont fait des bêtises. Et j'étais là, oui, c'est mon fils. Oui, oui, c'est ça. C'est comme, tu t'en vantes pas trop, tu as juste hâte de sortir de l'école, qu'est-ce que c'est ta affaire. Mais sais-tu quoi? Il était allé coucher dans sa chambre, pareil, le soir, il y avait un lit qui l'attendait, puis il était bien accueilli chez nous, pareil. Tu comprends? C'est ça, un parent. Un parent, c'est pas comme un employeur. Ça, il y a une différence. Alors, il y a une acceptation. On accepte nos enfants. On va les accepter. Tu es accepté. Et c'est quoi que ça veut dire, ça, être un enfant de Dieu? C'est que tu es accepté. Ça signifie qu'il ne peut pas nous congédier. Ça signifie qu'il n'y a pas de condamnation pour nous autres. Ça revient à dire Jean 10, 28 qui dit ceci, « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne riront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. » Et ça, c'est Dieu qui dit ça à l'endroit de tous ses enfants. Personne ne peut t'arracher de la main de Dieu. Ma fille Katia avait coutume de dire qu'elle avait appris la parole de vie bétale. Elle avait dit ceci, elle dit, « Sais-tu, papa? » Elle dit, « Je ne pourrai jamais tomber plus bas que dans la main de Dieu. » Amen. C'est ça la différence, c'est l'acceptation. Nous sommes acceptés, nous sommes pris. Et ça, c'est le test. Pose-toi la question. Vis-tu dans cette liberté-là? Ou vis-tu toujours dans la crainte d'être rejeté par Dieu? Toujours avec un sentiment de culpabilité que tu traînes année après année? Est-ce que tu vis dans la peur que Dieu te rejette quand tu te sens pas assez bon? Ou à l'autre extrême, lorsqu'une semaine, tu as fait un bon coup, tu as passé une bonne semaine, est-ce que tu raisonnes ainsi? Ah, je pense que je devrais aller prier, c'est le temps, parce que j'ai fait une bonne semaine, j'étais correct, j'ai pas péché cette semaine. Là, tu es en train de penser comme un orphelin et non pas comme un enfant de Dieu. Les deux côtés, les deux bords, les deux extrêmes. Vivre dans la peur que Dieu te rejette à tout bout de champ, c'est aussi vivre comme un orphelin. Deuxième test, c'est l'accès. Ça, c'est un autre privilège comme enfant de Dieu. Vois-tu, si on reprend le même exemple, la même métaphore d'un employé, mais dans un employé, tu peux t'entendre très bien avec ton patron. Tu peux avoir une super belle relation, tu peux aller jouer au golf avec ton patron, faire de la pêche, tu peux avoir du bon temps sortir au restaurant avec sa femme et tout ça, puis lui, puis avoir un bon temps en couple, tu sors en couple, tu as une super belle relation. Mais on s'entend-tu que tu ne peux pas arriver là à 2 heures du matin, à 2 heures ou 3 heures dans la nuit, ouvre la porte, rentre dans sa chambre, tu te couches dans le lit, puis tu lui demandes un verre d'eau. On s'entend-tu que tu ne pourrais pas vraiment faire ça avec ton patron? Ton accès est limité. Vrai? Mais un enfant, on sait c'est quoi, hein? Vous avez été enfant, même si vous n'avez pas d'enfant en ce moment, vous avez déjà été enfant, vous vous en souvenez. Là, ton enfant est là en plein milieu de la nuit, puis il fait un gros cauchemar, puis là, il a peur, puis il part à crier, part à courir dans ta chambre, il saute dans le lit, il s'en fout, il regarde pas le cadran avant, là. Il s'en fout, il saute dans le lit, saute, hein, let's go, juste entre toi, puis sa mère, puis il est là, il se couche, puis j'ai peur, puis qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu vas le prendre, tu vas dire, OK, couche-toi ici, juste ici, entre les deux, là. Puis là, le lendemain matin, tu as des poches en dessous des yeux, tu es fatigué, puis tout, mais écoute, c'est correct, ton enfant a un accès incroyable que tu n'auras pas avec ton patron. Ça, c'est l'accès de cette relation privilégiée, cette intimité-là, à cause des liens familiaux que tu as. Et c'est la même chose lorsque tu es un enfant de Dieu, tu as ce privilège-là, cet accès où tu peux toujours rentrer dans la présence de Dieu lorsque tu as le cœur plein. Quoi qu'il arrive, tu peux aller le voir. La porte est grande ouverte. Et c'est ce que nous lisons d'ailleurs dans Éphésiens 2, 18. Nous lisons, à travers lui, ça parle de Jésus, en effet, à travers Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Vous n'êtes plus des étrangers, vous êtes au contraire membres de la famille de Dieu. C'est le même mot qu'on employait dans l'Empire romain lorsque tu voulais aller rencontrer le roi de l'Empire. Il y avait un bonhomme attitré à la porte qui te prenait. Tu ne pouvais pas juste rentrer comme ça. Moi, je ne pourrais pas aller en Angleterre pour aller rentrer dans le château. Je dis, tiens, ça me tente d'aller voir la reine d'Angleterre. On ne me laissera pas rentrer. Donc, il y a une personne à la porte qui était attitrée où tu allais voir, puis cette personne-là était ton accès qui te permettait de rentrer dans la présence même du roi. Et ce mot-là, accès, est le mot employé pour Jésus-Christ. Jésus-Christ est la porte. C'est grâce à Jésus-Christ que tu peux entrer dans la présence même et l'intimité de Dieu. Tu as cet accès-là. Sens-tu cette liberté-là? Quelques-uns ici, vous pensez peut-être ne pas avoir accès à Dieu, que la porte est fermée, et vous vivez, vous avez l'impression d'être loin de Dieu. La porte est là, alors à ce moment-là, tu es en train de vivre comme un orphelin, tu ne vis pas comme un enfant de Dieu. Vis comme un enfant de Dieu bien-aimé. Troisièmement, c'est la protection. Vous savez comment on a à cœur nos enfants, comment on est tellement, on veut tellement les protéger, les surprotéger, puis on les protège, puis tout ça. On les a toujours à cœur. Hein? Vous connaissez là, ce dicton, une fois par an, toujours par an? C'est vrai, bon sang. Moi, les enfants sont grands de même, là, puis je suis toujours en train de me préoccuper d'eux autres, puis ça va-tu? C'est-tu correct? Tu t'écoutes la voix, puis juste au téléphone, tu dis, y a-tu quelque chose qui marche pas? Puis tout, tu sais, ça ne marche pas? C'est ça, être parent. Tu te préoccupes de tes enfants, tes aimes, tu veux, tu sais, les bons parents, c'est ça que ça va faire. Puis un parent n'est pas heureux si son enfant n'est pas heureux. Y a-tu des parents ici qui sont d'accord? C'est vrai, ça? Hein? T'es pas heureux si ton enfant n'est pas heureux. Ça, c'est vrai. Un parent va avoir beaucoup de difficultés à voir son enfant souffrir. Et on se préoccupe de nos enfants. Et Dieu est notre Père, puis il soucie de nous autres. On l'a vu hein, dans Éphésiens 4, lorsque ça dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Et lorsqu'on pêche, lorsqu'on ment, on dit des sottises qui font mal aux autres, etc., ça l'attriste Dieu. Dieu dit la même chose ici au niveau de la protection, comment Dieu nous a à cœur, c'est dans Hébreux 13, ça dit « Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. » Si tu penses que Dieu t'a oublié, parce que tu es en train de passer peut-être par des temps difficiles, des temps d'épreuves, et tu penses que Dieu ne se soucie pas de toi, tu es en train de vivre comme un orphelin et non pas comme un enfant bien-aimé. Vois-tu? Comment savoir si tu vis comme un enfant ou un orphelin? Pose-toi la question. Peux-tu faire confiance au Seigneur lorsque tu passes par des temps difficiles, des temps d'épreuves? Peut-être que tu as perdu ton emploi et tu passes à des moments très difficiles financièrement là, ici, où il y a des conflits, peut-être au travail, peut-être avec ton employeur, employé. Est-ce que tu peux faire confiance? Est-ce que dans ton cœur, tu peux dire, écoute, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu? Je sais que Dieu est en train de concourir des choses pour mon bien, ça va me faire grandir, je sais qu'est-ce qu'il est en train de faire. Est-ce que tu peux parler comme ça? Je suis en bonne main, Dieu est au contrôle, il va prendre soin de moi. Tu es un enfant bien-aimé. Quatrième test, c'est l'héritage. Le monde sera à toi un jour. Réalises-tu ça? Le monde sera à toi. Si tu te sens pauvre, indépendamment de ton portefeuille, tu te sens peut-être écrasé, n'oublie pas que Dieu va prendre soin de tes besoins. Il l'a dit, il l'a promis. Dieu n'est pas menteur, il l'a dit. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Dieu va prendre soin de vous autres. Alors, c'est quoi vivre comme un orphelin ou vivre comme un de ses enfants? Quels sont les privilèges? Posons-nous la question. Premièrement, c'est l'acceptation. Tu ne vis pas une vie de condamnation ni de culpabilité. Tu as un accès privilégié. Tu n'es pas du tout seul. Tu peux aller à lui à n'importe quel temps, dans un lieu de prière, et ouvrir ton cœur au Seigneur. Tu as sa protection. Tu n'as pas à avoir peur. Tu sais qu'il arrange tout pour ton bien. Et il y a un héritage qui t'attend. Tu n'as pas à t'inquiéter comment tu vas vivre ou quoi. Tu peux vivre dans l'assurance qu'il va prendre soin de toi. Et tu ne pourras pas, et c'est la leçon que Paul est en train de nous donner ici, on ne pourra pas imiter Dieu et vivre une vie victorieuse à moins de vivre comme un enfant et se voir comme un enfant bien-aimé qui est chéri par Dieu. Est-ce que c'est ta façon de penser? Est-ce que tu vis comme un enfant bien-aimé? Et pourquoi Dieu nous a adoptés? Pourquoi nous sommes aujourd'hui des enfants bien-aimés? Eh bien, le verset 2, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, « Vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice, dont l'odeur est agréable à Dieu. » On peut résumer tout le christianisme dans cette simple phrase-là. Nous aimons parce que Jésus nous a aimés. Et qui s'est offert lui-même à Dieu comme un sacrifice d'une odeur agréable. Cela, ça résume le christianisme en une phrase. C'est vraiment intéressant parce que toute cette section-là parle, en fait, de façon très pratique, là, dans le quotidien. Ça va parler tantôt de mariage, ta femme, comment aimer ta femme, ton mari, comment traiter ton mari. Ça va parler de l'éducation des enfants, ça va parler de la relation des employés et des employeurs. C'est une section des plus pratiques que tu ne peux pas imaginer quand tu rentres dans le chapitre 4. Et pourtant, en plein milieu du chapitre 4, où il est dans la section la plus pratique possible, Paul nous donne la doctrine de la substitution. Voici, tu ne peux pas avoir la pratique sans avoir la doctrine. Et c'est ce qui fait la différence entre la religion puis le christianisme. Vois-tu, au chapitre 4, verset 30, ça disait de ne pas attrister le Saint-Esprit. En d'autres mots, ce qui nous motive et ce qui nous inspire à nous améliorer de plus en plus et de ne pas dire des bêtises, de ne pas se faire du mal les uns les autres, se déchirer les uns les autres, chercher l'unité, contribuer à l'unité, s'encourager mutuellement, pas voler, pas mentir et tout ça. Et ce que Paul disait déjà dans les premiers versets du chapitre 5, pourquoi il fait ça? Il dit, bien, parce qu'il y a une personne qui habite en toi, qui est le Saint-Esprit, qui est attristé lorsque tu agis comme ça. Et ici, ce qu'il est en train de dire, c'est, vois-tu, pourquoi tu veux grandir? Pourquoi tu veux changer? Tu veux t'améliorer? Tu veux imiter Dieu? C'est parce que Jésus-Christ s'est offert pour toi en substitution. Et là, on parle de la doctrine de l'adoption. On parle de la doctrine de la substitution. Et c'est ça qui va nous rendre capables à vouloir imiter Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un sacrifice de bonne odeur? Ça veut dire simplement que Dieu l'a accepté. Que c'était un sacrifice qui était agréable et acceptable de Dieu. Donc, le sacrifice que Jésus-Christ a fait sur la croix était un sacrifice qui était suffisant où Dieu disait « Amen, je suis satisfait, c'est assez pour couvrir tous les péchés du monde entier. » Et lorsqu'on croit, on place notre foi en Jésus-Christ. Il y a cette imputation qui nous est donnée, la justice de Jésus-Christ, et nous sommes sauvés. C'est ça que ça veut dire. Une odeur agréable, c'est une odeur, ça veut dire que le sacrifice de Jésus était satisfaisant, c'était agréable pour Dieu. Parce que, et la raison pour laquelle on peut maintenant marcher dans l'amour, c'est qu'on croit qu'il y a un homme qui a quitté le ciel, qui a vécu ici, s'est incarné, qui s'est offert en sacrifice pour Dieu, pour nos péchés. Alors, parce que nous avons tant été aimés, nous sommes maintenant adoptés par Dieu. Nous sommes maintenant des enfants bien-aimés et nous voulons leur ressembler de plus en plus. Et c'est ça le message ici de ce passage. Comment imiter Dieu? Bien, premièrement, on imite Dieu quand on marche dans l'amour. C'est ce qu'on dit ici au verset 3 jusqu'au verset 7. On imite Dieu quand on marche dans la lumière, verset 8 à 14. Et on imite Dieu quand on marche dans l'esprit, verset 15 à 21. Et on va revenir juste dans ce dernier passage, la plénitude du Saint-Esprit dans deux semaines. Alors, nous imitons Dieu en marchant dans la lumière. Le passage qui va suivre parle de la sexualité. On a parlé de différentes choses déjà au premier, le chapitre précédent, chapitre 4, ça parlait de vol, de mentir, de dire la vérité, de pas se déchirer les uns les autres. Et ici, il rentre dans une nouvelle section qui va parler de la sexualité. Ça parle de la débauche, la sexualité. Donc, il va employer six mots différents. Les trois premiers mots, verset 3, parlent des actes immoraux. Et les trois mots qu'il va employer au verset 4 parlent des paroles immorales. Donc, on parle de gestes, des actes. Après ça, on parle au verset 4 des paroles. D'accord? Alors, ça parle de la sexualité. Tous les mots s'inscrivent dans un contexte sexuel. Et ce que Paul est en train de dire, il dit que l'immoralité sexuelle, premier mot, l'impureté, deuxième mot, sous toutes ses formes, ou la soif de posséder, ne soit pas même mentionné parmi vous. Alors, le mot « cupide » qui veut dire l'amour de l'argent, de vouloir faire de l'argent dans un contexte sexuel, dans le contexte immédiat. Et verset 4 dit qu'on n'entende pas de paroles grossières, donc ça parle ici de notre langage, de propos stupides ou équivoques. Le propos stupide, ça c'est les paroles qui sortent de quelqu'un qui est vraiment comme Yves, pacté, qui ne se contrôle pas, ça sort tout croche. Ou équivoque, c'est le contraire, c'est le gars qui est super vite, intelligent, la fille ou le gars super vite, de changer n'importe quelle conversation en blague sexuelle. Même il y a une traduction qui a traduit le mot « sale ». On se comprend. C'est inconvenant, dit Paul, mais qu'on entend plutôt des paroles de reconnaissance. Alors, quoi que Dieu fasse, Dieu a fait la sexualité pour quelque chose de beau, c'est un don, c'est quelque chose de beau, de merveilleux, pour le mariage, pour emmener le couple dans une intimité privilégiée. Quoi que Dieu fasse de beau, le diable va essayer de le détruire, n'est-ce pas? Il va faire la contrefaçon. Et c'est ce qu'on voit ici. Là où Dieu établit le véritable amour, c'est pour ça que Paul dit « marcher dans l'amour à l'exemple de Jésus-Christ ». Ce n'est pas un exemple égoïste, il a été désintéressé, c'est donné. Lui, Satan, a produit une contrefaçon. Alors, contrairement à l'amour de Dieu qui est désintéressé, qui pardonne, l'amour selon le monde convoite, recherche, sa propre satisfaction. Et ce genre d'amour-là va conduire à la débauche, à l'impureté. Maintenant, le mot débauche ici, c'est le mot, je cite rarement des mots grecs, mais je vais le faire ici parce que vous allez tout de suite cliquer, c'est le mot porneia. Et tout de suite, hein, ça donne le mot que nous avons en français aujourd'hui, pornographie ou porno. Pornographie. Ça comprend tous les péchés sexuels, inimaginables. Ça prend la sexualité en dehors du mariage, que la Bible va parfois appeler la fornication, alors avoir des relations en dehors du mariage. Ça va parler aussi de l'adultère, des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre. Ça, tous les péchés sexuels sont groupés ici. Maintenant, ça, ce n'est pas très populaire aujourd'hui, la sexualité en dehors du mariage, ou même l'adultère. Au contraire, dans notre culture, maintenant, on accepte de plus en plus la sexualité hors des principes des Écritures. On va banaliser la sexualité. D'ailleurs, voici la logique, voici le raisonnement. Vous l'avez déjà entendu, je suis certain, on entend régulièrement ça. Moi, j'entends ça régulièrement. Voici le raisonnement. Pourquoi on mettrait des règles entre nous autres, puis attendre jusqu'au mariage? Je ne comprends pas. On s'aime. On ne devrait pas avoir de règles, de liens. Pourquoi vous autres, les chrétiens, vous mettez trop des règles? Pourquoi avoir des règles? On devrait être libre de faire ce qu'on veut. D'accord? Maintenant, t'écoutes ça, à première vue, honnêtement, là, c'est logique. Le raisonnement est logique. Tu dis ça, ouais, OK, c'est logique. Maintenant, tu prends le même raisonnement et tu le transposes dans un autre contexte, tu réalises à quel point ça n'a pas d'allure. Laisse-moi vous donner un exemple. Il y a quelques années, moi et ma femme, nous sommes allés à Paris. Alors, ça a été tout un beau voyage, on était bien contents d'aller visiter ça. Je faisais partie d'un membre d'un comité, puis ils nous ont tous envoyés là-bas pour nous rencontrer. La vraie misère, c'est dur. Mais enfin, on est allé à Paris, puis on a visité le musée du Louvre. Maintenant, le musée du Louvre, c'est fantastique, là. Écoute, c'est extraordinaire. Regardez ça, ça c'est juste une des pièces du musée. Ça, c'est une pièce, là. Ça, c'est comme, il y a tellement de pièces, tellement de choses à voir. Il y a des centaines, des milliers d'objets, de valeurs et tout ça. À un moment donné, et ça, c'est vraiment l'apogée de la visite, et c'est l'apogée, et tout le monde dit ça, c'est la même affaire, là, c'est pas juste moi qui dis ça, c'est que l'apogée de ta visite du musée du Louvre, c'est quand tu arrives dans une pièce spéciale où tu vas arriver devant quoi ou qui? La Joconde, la Mona Lisa. Ça, là, ça, vraiment, là, c'est le summum des pièces de collection qui se trouvent au musée du Louvre. Ils ont même changé les règles quand tu arrives dans cette pièce-là. Il y a des choses qu'on va interdire lorsque tu es devant la Mona Lisa, la Joconde. Et regarde, on peut la visiter, la Joconde. Ça a l'air. Voyez-vous la barrière, clôture, la vitre, une vitre épaisse, climatisée, une barrière en avant. Il y a 180 agents qui travaillent dans le musée du Louvre. Il y en a deux affectés à temps plein juste pour ça. Tu as le droit, n'importe où dans le musée, tu peux prendre des photos avec des flashs. Tu arrives devant la Mona Lisa, la Joconde, c'est fini. On a mis des règlements supplémentaires pour protéger la Joconde. Et d'ailleurs, ça met beaucoup de stress pour les agents de sécurité. Ils ont même fait une grève parce qu'il y avait trop de stress pour garder la Joconde. On fait une grève, ils sont allés en grève. Ils ont dit, c'est trop tough, garder la Joconde, trop dur. Il y a trop de lois à essayer. Il y a des lois à essayer de la protéger. Puis les gens ne savent pas, il faut que les gens prennent des flashs, puis tout, ils arrivent dans la salle. Oh! Fini. Non, tu ne prends pas de flash ici. Ils sont toujours en train de dire, non, les règlements ne sont pas pareils ici. Pourquoi les règlements sont différents? Pourquoi il y a tellement de règlements dans cette pièce-là devant la Joconde? Expliquez-moi ça. Bien, c'est vraiment pas compliqué. C'est parce qu'on la tient avec une haute, très haute estime. Vous voyez? Maintenant, admettons que vous êtes le nouveau directeur du musée du Louvre. Vous dites, moi, là, je crois à la démocratie, à la liberté. On aime la pièce, la Mona Lisa. Tout le monde devrait la voir, ça devrait être proche. Moi, j'enlève les règlements. De fait, on fait une affaire, on va rendre la visite de la Mona Lisa libre à tout le monde. On va pouvoir venir prendre des photos. Je vais même la sortir, tiens. Je vais la mettre, la première pièce, je vais même la mettre dehors, tiens. Je vais la mettre dehors en rentrant à côté de la porte de la sortie. Comme ça, tout le monde va pouvoir la voir, tout le monde va la garder, tiens. Vive la liberté, pas de règles. Voyez-vous, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Là? Voyez-vous, c'est exactement comme ça que les Écritures parlent de la sexualité. Parce que la Bible et le christianisme parlent de la sexualité avec autant d'estime qu'elle va encadrer ce don de Dieu. On va élever donc la sexualité dans les Écritures et ne pas la banaliser comme la culture le fait. Parce qu'aujourd'hui, la culture, disons-le, Ça banalise la sexualité. Juste hier, dans la presse, j'étais vraiment frappé, on parle d'un nouveau site sur Internet de rencontres, le premier site en Europe de rencontres pour des rencontres extra-conjugales. On fait de la publicité dans le métro maintenant avec des pancartes et tout ça pour faire la promotion de l'adultère. Deux frères sont allés les interviewer, c'était des hommes d'affaires, mais ils ont dit, écoutez, nous autres, c'est pas bien compliqué, on a flairé l'affaire, on entendait les gens, on a vu que les hommes puis les femmes, ils allaient sur des sites de rencontres, puis 30 % des gens qui allaient dans les sites de rencontres, avant que ça existe, ces sites-là, 30 % étaient des gens mariés. Alors, lui, il a vu l'affaire, il dit, aïe, 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 OK, il y a un marché ici, ils sont devenus millionnaires. En l'espace de peu de temps, 2 millions de membres, plus de 900 femmes sont membres du site de rencontres extra-conjugales. C'est fou, là. Ils ont fait une entrevue avec les propriétaires, les deux hommes d'affaires, puis ils ont dit, oh, c'est pas une question d'infidélité, c'est une question de liberté. Voyez-vous le raisonnement? Là, vous allez dire, oh, c'est en Europe. Ah, c'est en Europe, ça. Non, je m'excuse. 2002, ça vient de commencer en 2002. Un autre site a commencé en 2002, il y a 13 ans, ou il y a 12 ans. Ici au Canada, premier site de rencontre. Extra-conjugal. Sont rendus avec 24 millions de membres. L'autre en Europe, c'est rendu qu'ils font 30 millions de dollars par année, ce site-là. Et vous savez, c'était pareil dans le Nouveau Testament, hein? Rome, l'adultère. C'est pas une question de fidélité ou infidélité, c'est une question de liberté. Et d'ailleurs, les Romains étaient très surpris de voir les chrétiens qui protégeaient comme ça, puis qui élevaient la sexualité comme ça, puis gardaient la sexualité uniquement dans les liens du mariage. Ils ne comprenaient pas les Romains, c'est bizarre, ça surprit. Il y avait deux choses qui surprenaient vraiment les Romains. Premièrement, que les chrétiens, ces chrétiens-là, ces nouveaux chrétiens-là, donnaient à tous les pauvres. Oui, on peut comprendre que des Juifs aident des Juifs, on peut comprendre que des Grecs vont aider des Grecs, mais les chrétiens, eux autres, nonobstant de ta race, ils aidaient tout le monde. Pauvres, Grecs, Juifs, tout le monde. Ça surprenait les Romains. La deuxième chose qui surprenait les Romains aussi, c'est l'insistance que les gens mettaient sur la fidélité dans le mariage. Ils ne comprenaient pas ça, eux autres. D'ailleurs, c'était un gros problème, c'était un fléau. D'ailleurs, lorsqu'une femme se mariait à un homme, je l'ai déjà dit, je vais le dire encore, lorsqu'une femme se mariait dans le temps, à la nuit nuptiale, imagine-toi, tu fais ton voyage de noces, tu t'en vas à Cancun, sur le bord de la mer, première nuit de noces, tu valais que tu prononces deux choses, tu fasses deux promesses à ton mari la première nuit de noces. Deux promesses. Un, la femme devait dire, je vais accepter ton Dieu et je vais accepter tes adultères. Maintenant, comment une femme pouvait se sentir? Tu arrives dans les Écritures et Dieu dit, non, ça ne marche pas de même. Vois-tu, la Bible, en fait, a élevé le mariage, a élevé la sexualité comme un don de Dieu, ça vient de Dieu. Alors, Paul est en train de dire, on veut aimer comme Jésus nous a aimés, de façon désintéressée, généreuse, protecteur. Et c'est là que le Seigneur veut nous emmener, qu'on agisse comme ça. Maintenant, je comprends que c'est une grosse lutte. Les tentations sexuelles, grosse lutte. Et il y a quelques-uns ici, vous avez des grosses luttes avec ça, je comprends très bien, comme avec d'autres péchés. Mais je veux vous encourager à rembarquer. Ça prend un plan. C'est sûr que ça prend un plan. Ça prend des amis, ça prend... Il y a des logiciels qui est là, qui existent pour vous protéger. Mais je veux vous encourager à ne pas lancer la serviette. Même si le combat est dur, lance pas la serviette. Et il y a un encouragement qui vient de Martin Luther qui disait ceci. Il dit, la vie chrétienne ne signifie pas être bon, mais devenir bon. Ça ne veut pas dire être en bonne santé sans se rétablir. Ce n'est pas être, mais se rétablir. Ce n'est pas être, mais devenir. Non pas se reposer, mais s'entraîner. Nous ne sommes pas encore, mais nous serons. Cela n'a pas encore eu lieu, mais c'est la voie à suivre. Pour l'instant, tout n'est pas brillant ou resplendissant, mais tout s'améliore. C'est cet esprit-là. Indépendamment où tu es, avec tes luttes, que ce soit la sexualité, d'autres choses, reviens. Mène le combat. C'est un bon combat. Imite ton père. Reviens. T'es son enfant bien-aimé. T'es pas un orphelin. T'es un enfant bien-aimé. Reviens. Rétablis la relation avec Dieu. et continuer à mener ce beau combat-là. Ça vaut la peine. Maintenant, ça prend un plan. Pour chaque combat, ça prend un plan. Le plan est essentiel parce que ne pas avoir de plan, c'est le meilleur plan pour la défaite. Par exemple, fixez-vous des limites, des barrières infranchissables entre vous et l'objet de tes désirs. C'est intéressant que dans Proverbes 25-28, qui dit ceci, « Une ville forcée et sans muraille, tel est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Si tu ne mets pas de mur, des balises pour te protéger, connaissant que nous sommes faibles, ça va tomber. Donc, mets ces murs-là, érige des murs. C'est noble, c'est louable. Voici ce que dit Edwards dans son livre « À la croisée des chemins ». Il dit, « Si la pornographie sur le web est votre idole, vous êtes-vous inscrit à un site informant un ami de chacun des sites que vous visitez? Par exemple, Covenant Eyes, c'est un logiciel qui existe, chrétien, pour nous aider. Ça l'envoie les sites que tu visites. Et juste cet effort-là, ça t'aide, ça nous encadre. Bien sûr, dit-il, il existe des moyens de contourner ces barrières, peu importe la hauteur à laquelle vous les élevez, mais elles sont tout de même nécessaires. J'aime bien ce qui suit. Il dit, « Elle pourrait vous ralentir juste le temps qu'il faut pour vous laisser entendre la voix de la sagesse. » Votre ordinateur personnel est-il dans un lieu public? Il y a des choses qu'on peut faire concrètement pour se protéger, s'encadrer. Et c'est louable. C'est louable. Tu n'as pas à te sentir mal de ça. Au contraire, je te félicite parce qu'on est humain. Pourquoi? Parce que nous tenons la sexualité avec une haute estime et c'est le don de Dieu. Maintenant, le passage, certaines personnes vont prendre ce passage-là et vont dire, ah, on n'a pas le droit de faire de blagues, on ne devrait pas faire de l'humour, pas faire des jokes, parce que ça parle ici des plaisanteries, tout ça. Mais il faut le comprendre dans le contexte de la sexualité, des choses déplacées, à double sens. C'est là que ça parle, ça ne parle pas de l'humour. Moi, j'avais toujours un chrétien qui venait me voir. Il comprenait mal le passage. Chaque fois que je faisais une blague, on faisait des blagues, il venait me voir. Éphésiens 5.4. Éphésiens 5.4. Tu sais, gâcheux de party, là. Éphésiens 5.4. Hey, écoute, Dieu a l'humour. Dieu a bien l'humour. Avez-vous remarqué comment les enfants étaient attirés à Jésus-Christ? C'est toujours les bêtes. Tu penses-tu que les enfants seraient attirés à une personne qui a l'air bête? Même Ecclésiaste le dit. Inspiré de Dieu. Dieu dit, il y a un temps pour pleurer, et il y a un temps pour rire, il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour sauter de joie, dit Dieu. Il y a un temps pour ça. Maintenant, ce qui suit, hey, c'est magnifique. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Pense-y un instant, là. Des actions de grâce. En d'autres mots, que tu sois reconnu pour être une personne reconnaissante. En d'autres mots, lorsque je viens de voir, on commence à jaser ensemble et tu me quittes, la personne devrait avoir été encouragée par mes propos et notre entretien. As-tu déjà remarqué quelqu'un qui est reconnaissant? C'est quelqu'un qui est joyeux. As-tu remarqué que quelqu'un qui est reconnaissant, c'est une personne qui est étincelante, joyeuse. Elle est bien. Et même si elle passe par un moment difficile dans sa vie, elle sait au fond d'elle qu'elle est un enfant bien-aimé. Elle sait qui elle est maintenant, qui est en Jésus-Christ. Paul est en train de dire, comment est ton humour? Es-tu une personne sarcastique, mordante avec tes jokes? Tu détruis les autres et tu te vois un peu comme au-dessus de tes affaires et les autres sont comme ça. Tu ne les apprécies pas. Non, Paul est en train de dire, regarde, sois une personne qui est vide d'esprit, c'est le jeu de mots que Paul fait avec le mot qu'il vient de dire, équivoque. Le gars qui était vide d'esprit a converti n'importe quelle conversation en blague sexuelle. Bien, il dit, sois aussi vide d'esprit à être une personne encourageante et reconnaissante. Tu sais pourquoi? Pourquoi imiter Dieu? Bien, parce que tu aimes Dieu, parce que tu es un enfant bien-aimé. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, il y avait une famille qui s'était joint à notre église à Laval-Est. Ça s'appelait Daniel. Daniel me racontait que lorsqu'il était jeune, il avait 12 ans, ses parents se sont divorcés. Et ses parents ne voulaient pas avoir d'enfants. Donc, quand ils se sont divorcés, littéralement, ils les ont mis dehors. 12 ans en plein hiver, dans neige, 12 ans, et la sœur est encore plus jeune. Daniel a pris sa sœur en plein hiver, pas habillé, là. Pas habillé du tout comme avec des gros manteaux d'hiver. Là. Il a pris sa sœur sur ses épaules. Il a marché des kilomètres, plusieurs kilomètres, pour essayer de trouver un lieu où il pouvait se réfugier. Il m'a raconté ceci, il dit, Normand, moi j'ai fait 7 maisons d'accueil. Maintenant, il y a des bonnes maisons d'accueil, gloire à Dieu. Mais il dit, Normand, moi j'ai fait 7 maisons d'accueil, et vu ça, savoir une? Il dit, les pires choses que tu pourrais t'imaginer qui pourraient arriver dans une maison d'accueil, ça m'est arrivé. Il n'y a pas besoin de faire de dessin, je comprenais très bien ce qu'il voulait dire. Mais un jour, Daniel a découvert Jésus-Christ. Quelqu'un lui a parlé d'Évangile, il s'est converti, devenu un chrétien, s'est marié, a eu 5 enfants. Ils se sont ajoutés à notre église et quelle ne fut pas ma surprise et la surprise de toute l'église, parce qu'on connaissait cette histoire-là, de voir un jour sa mère, qui l'avait mis dans la rue en plein hiver, rentrer dans les bras de Daniel. Elle avait accepté le Seigneur. Et de voir comment Dieu avait opéré une guérison dans le cœur de Daniel, en dépit de toutes ses souffrances et ses blessures et ses soupçons et sa crainte des adultes. Comment il a pu guérir tranquillement avec les années de tout ça. Sa mère souvent pleurait, elle regrettait tellement, mais elle était pardonnée. Et toute la famille l'avait pardonnée. J'étais même là dans une scène à un moment donné où c'était assez intense, où elle remémorait toutes ces choses-là et elle pleurait comme un enfant. Ils l'ont encouragé tout ça. Vous savez pourquoi? Pouvez-vous juste imaginer comment Daniel pouvait décrire son Père céleste? Quand ce gars-là parlait de sa relation avec le Père céleste, il disait, Normand, moi, je n'ai pas peur de mon Père céleste. Je sais qu'il ne me mettra jamais dehors. Je sais qu'il m'aime, il me protège, il me garde. Vois-tu la différence? Cet homme-là a guéri, s'est épanoui, devenu un homme d'affaires. Une belle famille, parce qu'il a découvert Jésus-Christ. Paul est en train de nous emmener justement là. Il dit, mes chers amis, vous êtes un enfant bien-aimé. Ah, que ça... Puissons-nous visser cela dans notre cœur. Nous sommes des enfants bien-aimés. Amen. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de tout cœur. Pour cette relation que nous avons maintenant. Nous voulons te remercier, tu es tellement bon. Nous sommes des enfants maintenant. Et nous sommes si fiers de notre Père, Père céleste. Nous voulons nous améliorer, devenir de meilleur en meilleur, pour ta gloire, Seigneur, grâce à Jésus. Amen.